Salut, c'est Fred Testo. Bienvenue dans le débrief réalisé avec Santé publique France où on vous explique tout sur les dangers des paris sportifs. Pour parler de ça aujourd'hui avec nous, Mohamed Bouafsi, journaliste, et le professeur Laurent Carilla, addictologue. Alors, est-ce que l'on peut s'offrir une nouvelle vie grâce aux paris sportifs ?
Les vrais gagnants, c'est pas les parieurs, mais uniquement les sites de paris sportifs. Chaque année, ils dépensent des centaines de milliers d'euros pour pousser les jeunes à jouer à travers des pubs à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Ils savent jouer sur les émotions, sur l'adrénaline, sur les valeurs du sport promues par des stars du foot. Ils te donnent une impression, c'est que tu vas gagner facilement et rapidement de l'argent. On est manipulé. 60% du chiffre d'affaires sur les paris sportifs se fait sur le dos d'une minorité.
Professeur, votre analyse ?
Souvent, ce sont des hommes jeunes, entre 20 et 35 ans, en difficulté sociale, en difficulté financière, à cause de leurs pratiques excessives.
Parier, c'est pas rien. Si vous avez des questions, rendez-vous sur le site joueurinfoservice.fr.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA Extra. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Marie Patrux et Jacques Monclar. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Marie, bonjour Baptiste et surtout bonjour à tous.
Ceux qui nous écoutent.
Voilà, les pauvres.
Restez.
Les pauvres, ils sont de plus en plus nombreux. Donc
Il y a de plus en plus de pauvres, qu'est-ce que je te dise.
C'est peut-être aussi parce qu'on rentre dans du très très lourd avec les finales de conférence qui ont débuté la nuit dernière entre Boston et Indiana. Et l'on peut dire que c'est parti très très fort avec une fin de match à suspense. On va y revenir, on fera aussi une grosse preview sur l'alléchant Dallas-Minnesota. Bref, ne perdons pas de temps et petit jingle, c'est parti.
Il va shooter, il va shooter.
C'est un match qui compte dans une possible conquête de titre et qui lance parfaitement cette finale de conférence à l'Est. Les Celtics sont finalement venus à bout des Pacers dans la nuit de mardi à mercredi. Jaylen Brown a d'abord sorti un énorme shoot à 8 secondes de la fin pour arracher les prolongations avant que Jason Tatum ne termine le travail lors des 5 minutes suivantes. Ce fut compliqué, mais Boston répond tout de même présent. Qu'est-ce qu'on doit en sortir, Marie ?
Les Celtics peuvent remercier très chaleureusement les Pacers. Et les Pacers ont dû très mal dormir. Les pauvres, ça a dû être affreux de revoir tous ces ballons perdus dans les 30 dernières secondes. Les Pacers sont passés ils ont raté une occasion formidable de mener 1-0 dans cette série, ce qui peut changer toute la physionomie de la série maintenant. Je ne pense que ce sont les Pacers qui ont perdu ce match et pas les Celtics qui l'ont gagné. Et que je pense que vraiment, la série va changer. Enfin, ils sont passés à côté d'un truc. Ils devaient gagner ce match, ils l'avaient en main. Ils ont perdu trop de ballons, 22 ballons perdus pour les Pacers hier soir. Ça a donné 32 points pour les Celtics. C'était Noël hier soir au TD Garden oui, hein, pour les Celtics.
Progression, Marie.
Oui, mais bon.
La mauvaise.
Bah oui. C'est vraiment, je suis déçue pour eux, parce qu'ils étaient dans la... C'était le scénario parfait pour les Pacers.
Pour toi, c'est sûr que là, c'est plus possible.
Se remettre d'un truc pareil, je ne sais pas comment ils vont faire. Ils sont surprenants et je pense que c'est très difficile d'aller gagner à Indianapolis. Il leur reste ça, mais franchement, après 3 nuits blanches, je pense que ça va être compliqué.
À Indianapolis, je ne crois pas qu'ils aient perdu en play-off.
En plus,
oui. Comment dire, le premier point, Boston a gagné, mène 1-0. Et j'ai eu l'impression qu'ils commençaient leur play-off en prolongation. 22 balles, Marie, perdues. 22 balles perdues, Marie l'a dit. 32 points qui sont générés par ça. Normalement, tu ne gagnes pas un match de basket à 22 balles perdues. Et pourtant, ils n'avaient qu'à fermer la main pour le gagner. Il y a des impératifs et ça va te faire travailler. Tu verras que quand Siakam va pour prendre la balle, qui est touché et qui le retouche et qui va en touche, qui est un virage terrible.
À 10 secondes de la fin.
On ne va pas demander la balle sans se protéger avec la main opposée. On ne va pas demander la balle comme un môme qui tend les bras au ballon. Ça n'existe pas à ce moment-là. De la même manière, ça n'existe pas de perdre une balle sur remise en jeu comme ça se passe derrière. Voilà. Voilà. Après, le panier de fou de Jaylen Brown.
Ça s'appelle
la classe, ça s'appelle le talent. Boston, Jrue Holiday, dans les pertes de balles, il faut donner du crédit à la défense infernale sur la balle, la pression à la fin dans une situation dos au mur de Boston qui, Marie a raison. Moi, s'ils étaient menés 0-1, je voyais la série très compliquée parce que Indiana a une match-up, c'est-à-dire des oppositions, surtout en l'absence de KP, qui va bien. Et encore une fois, je suis désolé de parler comme ça, mais hormis Pritchard qui est régulier dans ses perfs, Cornet et Hauser, je suis désolé, il y aura des trous noirs comme il y a eu hier, et à ce moment-là, ils sont plus que 6. Ouais. Et en face, t'as du banc, ça te sort des Shepard, ça te sort des McConnell, ça te sort des Toppin, ça te sort des Isaiah
mais
Jackson.
Bon, ça reste pas concentré jusqu'au bout, quoi.
Ça, c'est un peu à Liberton.
Oui, oui.
C'est lui qui
perd les ballons.
C'est lui qui a fait un gros match. Il grandit, mais ce panier de fou. Avec le pump, la planche, il est là. Mais à la fin, il perd le fil du match.
Est-ce que c'est le manque d'expérience de
Est-ce que c'est pas la bonne défense de...
Non, mais justement, je te pose la question. Est-ce que c'est une question de manque d'expérience à ce niveau-là de compétition? De se dire, oh là là, mais on va les gagner chez le premier, notre finale de conférence, tu vois. Est-ce que c'est un truc qui arrive ou est-ce que c'est la défense, en effet, qui fait la différence?
Tu penses pas à ça. T'es rattrapé par 48 heures avant, tu gagnes un match 7, même si t'as déroulé. En battant un record historique de pourcentage de qualité de jeu, 67,1% sur un match, un truc de dingo. On va me dire, ah, les Knicks, c'était des morts-vivants, certes. Mais l'académie était là et ça jouait bien au ballon. Ils ont continué. Quand ils sont à moins 13, ils s'affolent pas. Et les autres, ils pensent tout de suite qu'ils ont gagné. Ça,
ouais,
c'est la tendance bostonienne. C'est un de leurs bémols. Ça, et le fait que... deux, trois bémols comme ça en vrac, Boston. Ça, le côté, ça y est, on est tranquille. Ça leur arrive trop souvent. Et ils prennent des runs derrière. Le côté, on n'est pas assez nombreux. Et il va falloir m'expliquer à quoi ça a servi de prendre Xavier Tillman sur le marché des trades.
Rien voilà. Pour l'instant.
Pour l'instant, à rien. Ils gagnent. Contre une équipe qui a perdu 22 ballons, qui leur a donné 32 points. Donc, c'est que tout n'a pas été parfait pour eux non plus. Sans ça, ils auraient mis une tôle. Hein, ils gagnent en prolongation, bravo, l'essentiel est fait, tout ce qu'on veut. Mais la situation de jeu pur et dur, Tatum qui s'évapore dans le quatrième quart-temps, alors qu'il est très fort dans le troisième. À chaque fois, ils sont un peu les uns après les autres. Il faut qu'ils arrivent à jouer ensemble. Déjà qu'ils ne sont pas nombreux. Et on a vu les tours que ça a joué de ne pas être nombreux à Denver.
Oui.
Mais on a l'impression que Boston commence ses playoffs. Faut appeler un chat un chat.
Et encore.
Ah, c'était
en
le
prolongation.
Et encore. Voilà, ouais. Voilà. Ça fait peu de temps de jeu effectif.
Ont eu
hein.
Un peu. On va pas dire miracle parce que c'est passé la résurrection. Mais
ouais,
c'est
la résurrection.
Le débat qu'on avait eu la semaine dernière. Voilà, deux premiers tours qui semblent avec des.
On voulait qu'ils aient un peu d'adversité.
Voilà.
Dans ces playoffs, ça peut aussi leur faire du bien pour la suite. D'avoir eu ce genre de match.
Et à l'inverse, vous parliez de récupération d'Indiana. Quand tu as le match comme ça, que tu n'as plus qu'à le fermer, le panier de Nembhard à plus 3.
Ouais.
Derrière, ils ont rebond. Ils perdent deux fois la balle. Mais franchement. Waouh. Ah, c'est sûr que là. Et pourquoi il n'y a pas tant mort? Pourquoi il n'y a pas si.
Il le dit, Ricard, là, en conférence de presse. Il dit c'est de ma faute, j'ai pas pris de temps mort.
Et à Liberton, il dit que c'est de sa faute.
Et à Liberton. Oui, mais alors s'ils passent tout leur temps à dire
non,
que c'est de ma faute.
Non, mais dans l'ordre chronologique, c'est Carlyle qui se dit ça va glisser, je prends pas le temps mort, ils sont dans le run, c'est notre.
Comme
run.
Quoi, il faut tout baliser.
Et là, juste à ce moment-là, t'as ton joueur majeur, en tout cas celui qui génère le jeu, qui fait une connerie. Mmh. Et c'est en ça que je comprends pas la notion d'avoir déjà été... Il a eu cette situation, on va me dire, pas en finale de conférence, mais tu penses pas à ça.
T'as
juste un adversaire en face de toi. Et c'est là où l'agressivité de Jalen Brown dans les mains sur Siakam, l'agressivité sur Jrue Holiday, de Derrick White sur la balle et bien sûr sur Haliburton. Voilà.
C'est vrai qu'on peut saluer le fait de jamais rien lâcher, alors qu'il reste rien à jouer, qu'ils sont en retard. Les Celtics, ils veulent tenter le coup pour jusqu'au bout. Oui, mais c'est vrai. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient laissé tomber. On les aurait vus du tout agressifs sur le ballon, etc. Et ils ont bien fait de jouer. La preuve qu'il faut jouer un match jusqu'au bout, tout peut arriver.
Et respecter, on ne va pas vers le ballon. Si vous avez des enfants, là, tous, là, ou des petits-neveux, ou quoi, ou qu'est-ce... dites-leur, mettez-les à 3-4 et faites comme si vous alliez jeter le... Ils vont tous venir les bras tendus. Ça n'existe pas dans un moment comme ça. Tu prends des postures en contrôlant tout de suite la défense avec ton bras opposé dans le cadre des règles. Il s'agit pas de leur affûter, mais ça existe et tu ne cours pas de manière linéaire. Tu changes de rythme, tu vas vite, pas vite. Tu es arrêté, tu démarres, tu fais fin. Bref, ils ont, et c'est là la fatigue, c'est là la lucidité de ces fondamentaux de base. Et dès que tu les oublies, quand tu es au meilleur niveau du monde ou presque, et ben, pam, pam.
C'est sûr. Comme les ballons perdus, quoi. Tu pars un ballon, c'est 2 points. Enfin,
32.
Tout coaché, ouais, voilà. C'est quand même c'est incroyable.
Et 128 points encaissés pour Boston, ça paraît énorme.
Ouais, mais aussi. Ça, c'est le jeu des Pacers à fond, à fond, à fond. Oui. On l'a vu toute l'année. Moi, je suis pas surprise que.
Même Boston. Même Smith qui met rien à 3 points, il en met qu'un.
C'est l'identité de cette équipe. Hein.
Oui, mais on pouvait peut-être attendre que Boston resserre un peu.
Après, je te répète, ils ont resserré avec quoi?
Ben oui, c'est un peu juste.
Tu passes des joueurs, tu passes des corps. Tu démarres, t'as Tatum en 4 qui défend son Siakam. Hein. Ou Jalen Brown.
C'est pour ça, les Pacers, en l'absence de Porzingis, il y avait un petit boulevard quand même. Mais Porzingis, il a attendu pour le match 4.
C'est ce que dit ESPN.
C'est ce qui est annoncé aujourd'hui. On verra ce que ça donnera. Mais moi, je pense que là, les Celtics, match 2, ils peuvent dérouler tranquillement. Hein.
En sachant que t'as une équipe qui vaut mieux mettre à 2-0 d'abord pour te mettre en route et ensuite parce qu'elle n'a pas perdu à la maison. Mmh. On va me dire, ah ouais, les Knicks. Ouais. Les Knicks ont été au bord de gagner, mais ils n'ont pas gagné. Et au premier tour, Milwaukee s'est cassé les dents à chaque fois. Là, tous les vainqueurs du Tour de France, là, ça va être un champ de tournesol, leur truc. Ça va être affreux, hein. Il va falloir être fort, hein, quand même.
Et Boston, si je ne me trompe pas, les deux séries d'avant perd le Game 2
À la maison,
ouais. Là, c'est marqué interdit.
Ah bah là, oui. Là, il faut puisque les playoffs ont commencé pour les Celtics, il faut qu'ils se poursuivent dans ce match 2 pour eux.
Alors, vous cassez du sucre quand même beaucoup sur Boston, juste.
Il y avait... Pas moi, non.
On casse non. pas du sucre.
Alors, moi, je casse pas, alors, pas du tout. J'ai commencé par dire, ils mènent 1-0. Je sais pas comment, je sais pas, s'il fallait voir un ORL ou quoi. C'est pas casser du sucre.
C'est pas casser du sucre, mais on vous attendait mieux de Boston, en tous les cas.
Bah, je constate qu'ils étaient en situation périlleuse, presque perdue. On va dire, ah, mais ils ont gagné. Oui, tu vas en prolongation contre une équipe à qui t'as piqué 22 ballons, t'as mis 32 points. C'est qu'il y a bien des endroits où tu t'es fait bouffer. T'as encaissé 123 points. 128 points.
Voilà.
128 points avec la prolongue. Bon, mettons 120 points. Non, tu peux pas être satisfait de ça. Ils vont pas faire la chenille.
Ils ont attendu, ils ont eu du repos. Ils ont attendu que les autres ils s'écharpent avec les Knicks dans un match 7 qui a eu lieu dimanche soir. Ils se retrouvent en finale de conf mardi soir. Ils sont leaders de la conférence Est. Ils ont un fabuleux bilan avec 60 victoires. Tu te dis, bon, bah, ils vont dire, c'est nous les patrons. Tu viens chez moi, je vais t'expliquer comment ça se passe. Malheureusement, cette équipe qui joue sans Kristaps Porzingis n'a pas du tout donné de leçon aux Pacers qui leur ont offert un match 1 dans une finale de conférence.
Je ne suis pas d'accord avec offert. Ils ont été le chercher. Mais ce n'est pas ça casser du sucre. On peut dire qu'ils l'ont offert. C'est un lieu commun de le dire. Moi, je dis, les 6 ont été le chercher. Sans aucun cas casser du sucre. Mais s'ils pensent comme ça, parce que c'est quoi Boston cette année? C'est le numéro 18. Sur les 8 dernières années, ils ont fait 6 finales de conf. Ils n'ont pas fait beaucoup de finales NBA. Il vaudrait mieux qu'ils changent de vitesse quand même.
En tout cas, ma question voulait plutôt s'angler sur Drew Holiday, qui était quand même, pour le coup, une bonne nouvelle.
C'est une satisfaction de la soirée d'hier pour les Celtics.
Voilà. Et il se réveille quand même
réveil. On l'a toujours dit.
Il sort son plus gros match, en tout cas.
Il faudra un bon Drew Holiday pour aller au bout et aller chercher déjà ses finales NBA et ce titre NBA qu'il demande depuis quelques années. Drew Holiday, c'est 28 points hier soir, 4 ballons perdus. Mais c'est vraiment lui, c'est comme un stabilisateur, moi, je trouve, dans cette équipe. Drew Holiday, avec un Jason Tatum qui est comme ça, un Jalen Brown qui est là, mais voilà. Mais lui, je trouve que c'est celui qui apporte une espèce de sérénité à cette équipe qui peut un peu se prendre la tête par moment.
Sérénité, oui, Marie, sauf dans la consistance au shoot. C'est son seul
bémol. Mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande, peut-être,
non, mais
je crois.
Hier, il a mis, 28 points. Et comme par hasard, ça sauve un peu tout la patrie. Il est avec Team USA. Il est un joueur, le seul de la bande, à connaître la route jusqu'au titre. C'est le seul. Le seul. Avec Donc Milwaukee. Il apporte tout ça. Ben oui, avec Milwaukee, il n'y a pas longtemps. C'est, à mon avis, le plus beau recrue. Autant Xavier Tillman, ils auraient pu s'en passer, ou prendre un autre, ou n'importe qui. Mais pas. Ou alors, le mec est peut-être bon, mais il ne joue pas. Idem pour Keta et tout, t'as besoin de corps. C'est l'option prise par. Joe Mazzulla. Mais en ce qui concerne le niveau là donné, oui, Boston doit faire beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est un constat. Ils se font secouer aussi par Turner, ils se font secouer par Siakam qui perd des balles. Ils perdent 5 balles dans les 5 dernières minutes du match régulier. C'est là que Boston va le chercher. Mais cette grinta, cette qualité, mettre le shoot que met Jalen Brown après le match qu'il fait, faut être mentalement...
Il est pas loin, Siakam, en plus, hein, sur le tir, quand même.
Oui, c'est toujours la même histoire.
Hein. Et oui, faire et faute là, ou pas faire faute.
Et comment tu veux faire faute?
Tu vas franco, hein.
Ah ouais, et si la balle elle est pas en jeu, tu prends lancer franc et faute technique.
Comment ça elle est? Bah non, mais tu fais faute
quand
au moment
quel est le
tir.
Moment
un peu à la
avant.
Façon de Shea contre.
Mais tu rigoles, enfin.
Je sais pas, non,
vous
mais
l'avez
je,
vu,
on
non,
se
mais
pose
attendez,
la
réfléchissez.
Question.
Vous l'avez vu dribbler Jalen Brown?
Non.
C'est réception shoot.
Ouais.
Et quand tu fais faute, dès qu'il est. Alors tu choisis de l'envoyer
sur
la ligne.
Oui, voilà, c'est oui. ça que
mais
je veux dire.
Mais pour tirer 3.
Ouais.
Pour tirer 3.
Bah, je sais pas, je me dis pourquoi pas. Et il dit à Siakam, non, moi j'avais l'intention de le faire.
Je vous pose la question, comment faire la faute dans le timing? Il faut qu'elle soit en jeu. Au moment où il la reçoit, on sait qu'il va être directement, tchaf, shoot. Vous faites faute, il y a 3 lancés. Mm-hmm. Vous avez 3 points d'avance. Mm-hmm. Vous défendez. Oui. Là, je suis. Autant moi, je suis un grand parti.
Je sais.
Mais là, non. Il faut quand même comprendre les règles. Si la balle.
On comprend les règles,
si les
Jacques,
arbitres,
rassure-toi.
Non, mais si tu veux faire faute, tu vas être encore plus. Comment tu veux faire faute à un moment?
Il n'est pas loin de la faire. Il n'est pas loin de la faire derrière, après le
jeu. Il y aurait 3 plus, hein.
Mais là, il ne voulait pas la faire. Il ne voulait pas la
Ils
faire.
Ils n'auraient même pas fait la prolongation. Et c'est très difficile.
Ils les avaient mis.
Alors, ça, par contre, je l'entends tout à fait. Avec des fous pareils, c'est presque plus dur de mettre 3 lancers de suite pour égaliser. Donc, tu n'es vraiment pas en situation de gagner le match.
Je
hein,
pense
là.
Que Jalen Brown, il aimait, moi.
Alors, ça, là, dans la Marie,
je sais.
Madame Marie.
Dans ma boule de cristal, voilà ce que je.
Sainte Marie-Aubert, hein, elle consulte mercredi.
Bien sûr, vous pouvez prendre rendez-vous durant ces play-offs.
On veut bien les
si
finalistes,
le
déjà.
Non, faut payer. Ce sera pour... dans un prochain épisode du podcast, parce que là, je dévoile déjà beaucoup de mes talents.
Bon teasing.
En tout cas, c'est une situation très compliquée, oui. Mais je vois que l'idée fait son chemin.
Oui.
Puisque maintenant, l'Amérique découvre que 2, c'est moins que 3.
Oui.
Finalement...
Mais non, c'est pas con, ce truc-là. C'est marrant, votre truc.
Bon, en tout cas, on suivra ça. Match, ça
ouais,
enchaîne.
Ouais, j'ai
hein.
peur pour les Pacers derrière. Quand même.
Ouais.
Un peu. Match mais bon, tout est possible chez eux. Je pense que chez eux, c'est vraiment trop dur d'aller gagner. Voilà.
Et ils savent ce que c'est que d'être mené 2-0,
même si
c'est pas pareil d'être mené 2-0 par une équipe qui a gagné 64 matchs que les Knicks qui en avaient gagné 50.
On peut saluer quand même c'est la performance de cette équipe, les Pacers, hein,
qui
va en fine. Ouais, tu vois, qui profite de tout ça pour grandir en même temps.
Et
moi,
Mathurin qui n'est pas là, Nesmith, Nembhard, Shepard, McConnell qui jusqu'ici font des playoffs de feu, et un trio majeur à Haliburton, Turner, Siakam.
C'est une belle équipe.
On dit que c'est Gafford qui est le meilleur ajout de la trade deadline. Alors, Siakam est arrivé un petit peu avant, mais c'est quand même aussi un...
On s'y attendait. C'est un marché... Oui, tu as raison. C'est un excellent ajout. Il a permis à cette équipe de pouvoir avoir des séquences défensives, d'apporter de la grinta, de l'intelligence un petit peu dans le jeu du poste 4. Et puis surtout, cercle à cercle, c'est un animal, quoi. Donc, oui.
Ça fait
quand on s'y attendait un peu.
Oui, c'est pas n'importe qui non plus.
Et lui, c'est pareil, il apporte à son équipe le côté « moi, j'ai gagné ».
Ouais. Et oui. Mais oui. Et oui, c'est important.
Et ça, chez les Ricains, c'est un paramètre qui est... Pas que chez les Ricains, c'est un paramètre important. Il y a des mecs qui savent ce qu'il faut faire.
Chez Kairi va être important à Dallas.
Je connais la route, quoi. Même si Conley ne l'a pas connue, cette route, puisque c'est sa première finale de conf avec les Wolves, lui, il a l'expérience et ce sont des moments particuliers.
Mais oui,
particuliers.
Je suis d'accord avec ça.
Belle transition pour
On est bon, hein. On dirait que c'est notre métier, c'est incroyable.
Aussi, ouais, je crois. Alors, on ne va pas vous le cacher, c'est vraiment une série qui va faire monter vraiment une certaine excitation. Parce que ce Wolves Mavericks comporte des multiples clés, duels, histoires qui laissent augurer une grande confrontation. Une grande confrontation assez inédite aussi, puisque Minnesota n'a plus atteint ce stade de la compétition depuis 2004. Et il faut remonter à 2002, je ne sais pas si vous en souvenez, pour retrouver un duel entre ces deux franchises en play-off. À l'époque, ce sont les Texans de Nowitzki qui s'étaient facilement imposés 3-0. Marie,
oui.
Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette série?
J'ai envie de voir, de continuer de voir l'évolution des Wolves dans ces playoffs, qui sortent le champion au match précédent dans un match 7 à renversement, et de voir comment justement cette équipe va se présenter à cette étape inédite pour eux, une première finale de conf pour tout le monde. C'est quand même pas mal, sauf pour Mike Conley, bien sûr, mais... Voilà, c'est la découverte. J'ai envie de voir comment est-ce qu'ils vont défendre sur Luka Doncic, qui déjà physiquement n'est pas au top. Et je pense qu'ils vont l'agresser direct et on va voir comment lui va réagir. Ça va être, on va voir le duel entre Luka et Anthony Edwards. Comment ils vont se comporter. Kyrie Irving, je pense, sera un élément fondamental pour les Mavs. Mais pour moi, les Wolves sont favoris de cette série. Si c'est ta question, mon cher Baptiste.
C'est presque un pronostic, ça, du coup.
Mais on vient de parler de ma boule de cristal.
Voilà, c'est ça.
On poursuit.
Je ne suis pas sûr, moi. Ils ont l'avantage du terrain. C'est une bonne situation pour eux. Je rappelle que les Mavs, ils sont cinquièmes, mais ils ont battu le numéro 4 et le numéro 1. Donc, oui. Favori, je ne sais pas. La match-up et les oppositions sont très, très différentes. Je ne pense pas que je pense pas que Luka et Anthony Edwards se croisent trop. Je pense plus
oui,
que
non,
c'est,
mais on va surveiller leur performance à duel à distance,
Edwards,
c'est ça que je veux dire.
Sur le côté Kyrie. Et là, d'ailleurs, il y a un aspect physique qui pèsera aussi. Il va falloir envoyer des corps et des hommes sur Luka et McDaniels, Conley, Alexander Walker, d'autres peut-être. vont passer du temps sur Luka Doncic. Voilà. Et puis, là encore, à l'intérieur, qui va dominer parce que l'apport offensif des intérieurs de Utah est toujours quelque chose, et surtout de Karl Anthony Towns.
Pas de Utah, de Minnesota.
De Minnesota, et surtout de Karl Anthony Towns et de Nazrid. Rudy, il est régulier, lui, quoi qu'il arrive. Sauf s'il déchire au lancer ou un soir où il fout des jumpers ou quoi aux caisses. Mais bon, globalement, sont les deux autres. Et est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça en contrôlant PJ Washington qui va à l'extérieur et les deux grands, Lively et Gafford? On va rappeler qu'il y a toujours aussi Maxi Kleber qui revient de blessure, qui peut un jour foutre des paniers à trois points. Donc, ils ont des stretch forts. Ils ont des cadres qui shootent au large. Comme Karl Anthony Towns, comme Nazrid. Donc, les oppositions vont jouer là aussi. Après, si Anthony Edwards jouait tout le temps comme à la fin du troisième et le début et tout le quatrième, carton du match 7, ils vont devenir difficiles à jouer. Mais les deux génies et les soutiers autour, moi, ça me plaît bien à Dallas. Je trouve que cette équipe a un truc. Voilà, les deux d'ailleurs, les deux. On a une finale de l'Ouest qui est fantastique. Et pour finir, les Wolves, écoutez bien, c'est 6 victoires de suite pour commencer les playoffs, 3 défaites et 2 victoires, une rouste au champion. Et ils ont été gagnés chez le champion. Donc le cheminement est bon. Luka a beaucoup joué de « je suis blessé, je suis pas bien ». Il a besoin de ce drama, on l'a déjà dit. Il est peut-être un peu blessé, mais comme à peu près tout le monde. Mais lui, il l'explique beaucoup. Il va y avoir des moments incroyables. Il va y avoir des moments incroyables. Cette finale est un must.
On avait déjà eu une belle demi-finale de conf et on poursuit. Hein.
dans
chapeau à cette équipe. Hein, de
l'intensité de l'Ouest est incroyable. Depuis les demi-finales de conférence, les quatre équipes étaient magnifiques. Magnifiques. Que ce soit OKC, Denver, qui avait le plus beau 5 de la Ligue, avec celui de Boston, mais le plus beau 5 de la Ligue.
L'intensité magnifique. De tous ces matchs les qui se répètent et tout, c'est très
et c'est ce qu'on attend, voilà. C'est pas casser du sucre que de dire on attend ça de Boston. Alors on va dire, il faut qu'il y ait en face. Mm. Jusqu'à preuve du contraire, les Wolves, quand il a fallu foutre 4-0 au premier tour, ou Denver 4-1 en battant les Lakers, ils le faisaient.
Mm. Bon. Et on peut compter sur Indiana.
Ils ont mis 4-1 à Miami. Enfin oui, il y a trois boiteux et deux sparadraps qui sont venus gagner au Garden. Non, mais franchement.
Je voulais revenir sur ce duel à distance, quand même, sur Edwards et, avec Edwards et Doncic, et justement les oppositions défensives. En gros, ça devrait être McDaniel sur Doncic et Derrick Jones Jr. Sur Edwards. Selon toi, Marie, c'est ce qui est le mieux à même de défendre
Franchement, moi, ça. Je pense que c'est des avions de chasse, les gars. Je vois pas un gars passer à côté de son match, tu vois.
Non, mais...
Ni l'un ni l'autre. Qui va...
Il peut y avoir un défenseur quand
même. Il faut baisser les pourcentages, mais tu synthétises un joueur. D'abord, il y a beaucoup de changements.
Évidemment.
Je pense que ça tourne tout le temps, on l'a vu.
Beaucoup de changements sur le terrain, à 5. Ça change. Et puis McDaniels. Et puis, comment il s'appelle Toi, tu mets sur...
Derrick Jones Jr.
Tu mets Derrick Jones Jr. sur qui, toi?
Sur Edwards.
Sur Edwards. Il est un peu grand, à mon avis. Ils vont plus s'envoyer de là. Après, ils le mettront sûrement au début, mais Josh Green, Dante Exum.
Ouais, ça me paraît peut-être un peu court, quoi, ce côté-là défensif de Dallas.
Eh ben, va essayer de monter la balle en 8 secondes avec ces mecs sur le cul, et tu verras après. Ouais. Non, mais vous rêvez ou quoi?
Non, mais je...
Mais comment tu
McDaniel,
peux...
c'est quand même...
Ça me paraît un peu court. Mais comment tu
sur Edwards, c'est quand même pas...
Et alors, il en a mis 40 à tout le monde, il est où le risque?
Mais oui,
c'est une des clés, je dis pas.
Alors, ils sont courts, ceux qui en ont pris 40.
Je pense que
il y a une putain de liste.
C'est Mike Conley qu'il va falloir bien défendre.
C'était Caldwell Pope, en plus, donc c'était un gros défenseur.
Pas servir Edwards. Tu vois, on se focalise sur Anthony Edwards, mais on a vu que Mike Conley est sur la série.
McDaniels, il gagne le match.
Oui, voilà, tu vois, je pense qu'il y a d'autres... Les dangers, justement, viennent des facteurs X, comme on dit, dans ces playoffs. Anthony Edwards, tu sais que tu vas en prendre un gros paquet de points avec lui. Mmh. Donc, il faut peut-être empêcher les autres de s'épanouir justement autour de lui.
Quand tu te mets sur des joueurs de haut niveau comme ça, des scoreurs impénitents, même quand tu les tiens à 2 sur 10, 11, ce qui serait c'est super, si tu changes de défenseur sur l'homme, tu t'exposes à ce que ça remonte. Tu sais que tu vas en prendre, ce qu'il faut, c'est baisser le pourcentage, rien lui donner de facile, et si possible, toi, le faire jouer. Qu'est-ce que j'appelle le faire jouer ?
L'user.
C'est-à-dire, non, lui faire des fautes. Le travailler aussi. Essayer de le mettre dans des embrouilles, dans des trucs où il va réagir. Défendre,
Donc,
c'est quoi ? C'est s'opposer en permanence. Alors, le défenseur absolu, et là, je vais pousser un coup de gueule, décidément, avec les histoires de premiers 5 défensifs. Il faut faire 2m15, il faut faire que des comptes.
On peut juste réexpliquer, Jacques, ce que tu veux dire, que dans le premier 5 défensif dévoilé par la NBA cette nuit,
4 pivots sur 5.
Il y a beaucoup d'intérieur. Oh, voilà.
C'est ridicule. La seule chose que les gens comprennent, donc, c'est rebond contre, c'est un bon défenseur. Ah ouais.
Que les Américains comprennent.
T'aurais voulu voir qui, alors?
Bon, on ne l'a pas demandé, je n'ai pas réfléchi.
Non, mais si, je te le demande.
Moi, je trouve que dans la dissuasion globale, Rudy, oui, tous sont des bons défenseurs.
Non, mais justement, mais, pour équilibrer, puisqu'on dit que c'est un 5.
Si on met deux big men, Rudy et Victor ont été élus les deux premiers. Moi, Victor, ce qui me gêne, même si c'est un défenseur absolu, c'est que son équipe ne défendait pas. On ne voit pas l'impact collectif du truc. Je trouve que Bamadé Bayo, Anthony Davis sont des top défenseurs, un des deux. Mais surtout les petits. Des Drew Holiday, des mecs, des Derrick White, Marcus Smart, McDaniel, mais toutes les équipes de haut niveau
sont tous
ont des
équipe.
Gonzes, Derrick Jones, toutes les équipes que tu retrouves en ce moment, ils ont des défenseurs fouri classés, tous. Tu
mais
ne vas
c'est,
pas.
Je suis d'accord avec
alors,
toi là-dessus.
Qu'on arrête avec le « ouais, tant de contre, tant de si ». Rudy cumule les trucs, parce qu'il a les... C'est pour ça qu'il l'est, d'ailleurs.
Oui,
il a les stats individuelles et l'impact collectif. Mais essayons de raisonner avec autre chose que des chiffres. Sans ça, il n'y aura plus un petit. Et on dit pourtant, enfin, quelques gens informés disent que la défense, elle commence par la pointe. Ça veut dire quoi? Les défenseurs, les petits. Meneurs, les arrières. Et on récompense que les grands. Donc, les
c'est
grands qui
juste.
Sont récompensés, en faisant des comptes et des machins, sont ceux dont les petits se font trouer. Oui. C'est con comme raisonnement. Hein.
Je crois qu'on a fait le tour.
Je crois qu'on a fait le tour et qu'on est à 30 minutes d'émission. Donc, on va se laisser là-dessus. Il y avait encore plein de choses à dire.
Il y a deux épisodes par semaine.
Et deux épisodes. Les images de Siakam qui va à la balle les deux mains, comme ça.
Je pense que
va
dans l'émission.
Il y a la NASA qui travaille.
Ça va,
là.
J'en regarde assez des images.
Ouais, vous allez pouvoir en reparler dans l'émission pendant encore un petit bout de temps, à mon avis.
Tout à fait.
Et on se laisse là-dessus, on se retrouve, le podcast ce sera vendredi, et puis bonne journée à tous, merci, au revoir.
Merci.
Salut, c'est Fred Testo, bienvenue dans le débrief réalisé avec Santé publique France, où on vous explique tout sur les dangers des paris sportifs. Pour parler de ça aujourd'hui avec nous, Mohamed Bouafsi, journaliste, et le professeur Laurent Carilla, addictologue. Alors, est-ce que l'on peut s'offrir une nouvelle vie grâce aux paris sportifs?
Les vrais gagnants, c'est pas les parieurs, mais uniquement les sites de paris sportifs. Chaque année, ils dépensent des centaines de milliers d'euros pour pousser les jeunes à jouer à travers des pubs à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Ils savent jouer sur les émotions, sur l'adrénaline, sur les valeurs du sport promues par des stars du foot. Ils te donnent une impression, c'est que tu vas gagner facilement et rapidement de l'argent. On est manipulé. 60% du chiffre d'affaires sur les paris sportifs se fait sur le dos d'une minorité.
Professeur, votre analyse?
Souvent, ce sont des hommes jeunes, entre 20 et 35 ans, en difficulté sociale, en difficulté financière, à cause de leurs pratiques excessives.
Parier, c'est pas rien. Si vous avez des questions, rendez-vous sur le site joueurinfoservice.fr.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.